Bienvenue sur Plumet Pinceau, l'émission de bande dessinée de Canal B. Qu'est-ce qui vous fait rire comme
ça? Je sais pas, c'est le côté bienvenue.
Welcome.
On dirait que vous avez des trucs à vendre.
Non, mais je suis content de retrouver les auditeurs, je suis content de vous retrouver, Roger, c'est
et
toujours
les auditrices.
Amusant. Et les auditrices, bien sûr, on va pas genrer. 462e émission, c'est
ouais,
bien ça?
Après le grand livre, c'est ce que j'ai marqué en tout cas.
462e émission qui va être consacrée à Quelle-Bulle. On va aller à Quelle-Bulle retrouver monsieur Gaëtan Brizzi, qui était venu présenter à ce moment-là, presque en avant-première, Plumet et Pinceau, son nouvel album qu'il fait avec son frère jumeau, qui s'appelle...
Don Quichotte,
bravo, il suit quand même, alors qu'il est en train d'écrire des trucs dans le grand cahier.
Non, mais c'est parce que je viens d'en terminer la lecture, parce que nous-mêmes, on n'avait pas, quand on a préparé l'interview de monsieur Gaëtan Brizzi, on n'a pas pu lui poser de questions sur le Don Quichotte, parce qu'on l'a eu le jour même.
Ouais, ultra.
Enfin, je mens un peu parce que,
l'attaché
de presse nous avait envoyé le PDF. Mais c'est pas pareil.
Non, c'est pas pareil. On a pu découvrir effectivement l'objet. Alors Daniel Maguns, donc c'est toujours des beaux albums. Et là encore, c'était un bel album. Ceux qui avaient écouté cette émission ont déjà entendu Roger chroniquer l'album antérieur dont on parle aussi dans la BD, à savoir le Dante.
L'enfer de Dante.
Ouais, et c'était vraiment très très beau, vraiment un dessin italien en fait. Hein. D'ailleurs, c'est pas par hasard. Quand vous écouterez l'interview, que vous comprendrez que l'allusion est correcte. On pense à des Battaglia, à des Topi, des traits comme ça. Magnifique. Bref, interview. On va aller à Quelle-Bulle et puis on en profite parce qu'on en a pas du tout parlé pour le moment. Quand même le palmarès du 42e festival. Alors, on n'est pas si mauvais que ça, finalement.
Alors, comparé effectivement à Angoulême, tous les grands prix, on les a, enfin, une bonne partie des prix, on en avait parlé, on les a chroniqués. Je pensais, par exemple, à Lisa Mandel.
Oui, on avait croisé sa route, effectivement. Elle a eu le grand prix de l'affiche, elle était très surprise, on avait vu ça de nos yeux vus. Fondatrice de la maison d'édition Exemplaire, elle défend une répartition plus juste du revenu pour les auteurs et les autrices. C'est bien, c'est vraiment une reconnaissance de la part du métier, et je pense, et de son travail. Donc c'est elle qui doit réaliser l'affiche de l'édition suivante.
On a également Monsieur Salch.
Oui, alors pour Résidence Autonomie, là l'album, moi je ne l'ai pas lu, aux éditions d'Argot, mais c'est un monsieur qu'on avait rencontré pour ses portraits plutôt acerbes dans Fluide Glacial, où il décrivait des gens à grands coups de flèches qui renvoyaient à des détails.
Ouais, selon. Ça a pensé à des portraits que faisait Villemin, mais Villemin c'était juste limité aux différents styles. Margerin l'avait fait aussi dans les années 80, on voyait le rocker, le punk, etc. Là, Monsieur Salch a étendu le propos puisque il allume tout le monde, puis il allume quoi, ça va être la bourre. Le beauf, il tire dans tous les coins. J'avais eu le malheur de lui demander une dédicace. Donc, prends ta droite, ta gueule avec pisse dans le froc. Là, total. Il doit pas trop être emmerdé pour les dédicaces, monsieur
Sage. Prix du coup de cœur. J'étais content. C'est Frontières de Guillaume Saint-Gelin aux éditions Rue de Sèvres, label voilà. 619.
Qu'on a interviewé aussi.
Qu'on a interviewé il y a très longtemps pour Doggy Bags avec Run et presque les membres fondateurs. On avait fait ça dans un bar à Saint-Malo, on avait animé une soirée et on a eu le plaisir de les rencontrer. Ouais, c'était cool, et là il avait fait vraiment un très très bel album avec Frontières. Il était déjà aussi sur The Grocery et pas mal d'histoires dans Doggy Bags. Il a un beau parcours quoi. J'aime beaucoup le label 619. Je me souviens d'ailleurs que sur notre plateau à Quelle-Bulle, nous avions reçu le jeune pouce de ce fameux label, alias Monsieur Petit Rapace, qui a triomphalement remporté cette interview en public, a réussi à garder son sang-froid. Il avait un peu d'appréhension, mais finalement c'était plutôt bien. Donc ouais, on a quelques cases cochées, j'ai envie de dire. Pour compléter, prix révélation, Quelle-Bulle, c'est En Boc de Sophie Dark qui l'a eu aux éditions Apocalypse, et le prix jeune talent, c'était Amandine Faucrouille.
Non, pas Faucrouille.
Faucrouille.
Oups. Mais un festival, c'est aussi de l'argent, mon bon Erwan.
Ouais.
Et le festival s'est achevé sur un record, puisqu'il a réuni plus de 46 000 personnes. Un succès, même presque trop.
Il savait qu'on était là.
J'en sais rien, mais.
S'il nous cherchait.
Trop de succès pour les expositions, rencontres et animations programmées, notamment celle du dimanche.
Pour aller dans celle de Goussin, ça a été hyper dur.
Ouais. C'est vrai que bah Quai des Bulles est presque victime de son succès parce que le Palais du Grand Large, il y a eu des travaux dedans qui ont été faits, mais les espaces qui sont dévolus aux expositions ne sont pas forcément extensibles ni très énormes. En plus de ça, la météo était apocalyptique, donc les gens plutôt, parce que faut dire quand même que Quai des Bulles, il y a le Palais du Grand Large, mais il y a plein de choses tout autour. Hein. Il y a vraiment le festival rentre dans toute la ville. Et donc il faudra dire que il faut quand même rappeler que le festival ne se termine pas avec la fin du festival, ça se poursuit avec des tas d'expos qui restent un petit peu partout en ville de Saint-Malo et ailleurs. Plus de renseignements, vous allez sur le site de Quai des Bulles. Voilà.
Yes, on va y retourner juste après ce morceau. Allez, danse à la radio, danse à la radio.
Nous sommes cette fois-ci le samedi et nous commençons la journée en fanfare avec notre invité de la journée, on va le dire, hein, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que de Monsieur Gaëtan Brizzi. Bonjour.
Bonjour.
Qui est venu nous présenter deux ouvrages, qui vient à Quai des Bulles pour présenter au moins deux ouvrages, on reviendra un peu là-dessus. Mais j'ai sous la main L'Enfer de Dante, une adaptation que vous avez réalisée avec votre frère Paul, et Le Don Quichotte tout chaud. Qui vient qui sort ce week-end.
Ça, c'est tout à fait notre actualité, c'est le Don Quichotte, oui.
Voilà. Tous les deux parus aux éditions Daniel
Maguen, bien sûr.
Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est qu'en fait, la BD, c'est une activité récente. Vous avez eu toute une première et très longue carrière, très riche carrière, mais dans le dessin, mais dans l'animation.
Oui,
ça,
tout
c'est
à
le
fait.
Premier point un peu particulier. On peut revenir peut-être sur ces années. Alors, vous étiez déjà
bien
avec
sûr.
Votre frère. et frère jumeau, si je ne m'abuse.
Frère jumeau, oui, oui, absolument.
Ouais, ça, c'est le deuxième point un peu atypique aussi. Alors, comment les deux frangins se sont retrouvés, peut-être dans l'animation au départ ?
Alors, ça fait beaucoup de questions auxquelles je vais essayer de répondre d'une manière cohérente. Et dire, en effet, en fait, j'aime bien dire d'une manière un peu ironique que mon frère et moi, nous sommes, dans le cadre de la bande dessinée, de jeunes auteurs. De jeunes auteurs par l'expérience, disons. Mais sinon, par l'âge, bon, je ne vous cache pas qu'on a passé les 70 ans. Et donc, c'est vrai qu'il y a une grosse carrière, une longue carrière avant nous. Je vais vraiment être très synthétique parce qu'on a fait tellement de choses. Notre premier choix de vie professionnelle a été l'animation, le dessin animé. Donc, en essayant de sortir le dessin animé du carcan du film pour enfants, donc on a fait beaucoup de courts-métrages fantastiques déjà parce qu'on a toujours été très attirés par le visionnaire et c'est ce qui sert aujourd'hui, ce qui est toujours le support de nos réalisations en bande dessinée et tout ça. Et donc, notre carrière a fait que nous avons fini, donc on a fait beaucoup de choses. On a créé le plus grand studio en France qui a été racheté par Disney, c'était en 89, et puis donc c'est devenu Disney Animation France. Nous avons été donc Paul et moi directeurs généraux de Disney Animation France. On avait déjà 20 ans d'expérience, hein, donc je vous passe vraiment tous les détails.
Vous aviez déjà remporté un prix pour un court-métrage Fracture, vous aviez remporté le César du meilleur film court-métrage d'animation.
Voilà, absolument, et puis notamment notre tout premier film s'était fait remarquer, ça s'appelait 1, c'était en 74 à Annecy, comme étant une véritable révélation. Donc ça nous a complètement encouragés à foncer dans cette voie-là. C'est vrai qu'on peut dire aussi qu'avec fierté que nous avons réussi toujours, mon frère et moi, à bien vivre de notre art, sans faire trop de concessions. En vendant notre studio à Disney, donc on s'est retrouvés, donc c'était la meilleure des reconnaissances, vous l'imaginez bien. Mais très vite, en tant que directeur généraux de ce qui était autrefois notre studio Brizzi Film, devenu Disney Animation France, on était un petit peu frustrés, un petit peu en manque créatif, puisque les projets arrivaient tout préparés de Los Angeles. Et donc, nous sommes des réalisateurs, mon frère et moi, donc qui concevons et storyboardons et mettons en scène nos productions. On nous a proposé d'aller faire un essai sur le bossu de Notre-Dame en tant que réalisateur de séquence auprès des réalisateurs américains. Et là, donc, on a rencontré un succès d'emblée puisque nous avons conçu pour le bossu le Hunchback of Notre-Dame, Notre-Dame de Paris, le bossu de Notre-Dame, la fameuse séquence du prologue très très dramatique. Et donc, on nous avait donné carte blanche et là, tout de suite, donc nous avons été reconnus comme et donc on nous a confié sur le bossu de Notre-Dame les séquences les plus dramatiques. On a été connotés, mon frère et moi, enfin étiquetés, on va dire, à ton spécial drame, spécial voilà. Donc ce qui est chez Disney est difficile parce qu'en général c'est toujours la comédie qui vient en avant, mais c'était l'époque, vous savez. Moi je distingue là, l'époque d'avant les événements tragiques de septembre 2001. Il y a eu le Disney d'avant qui, avant, Disney était en pleine évolution. Jeffrey Katzenberg était aux manettes et donc il voulait des films plus adultes avec l'effondrement des tours et cet événement ultra tragique qui a bouleversé la société américaine et le monde entier d'ailleurs. L'Amérique s'est retournée sur elle-même et elle est revenue à ses valeurs fondamentales de comédie, fun, entertainment, tout ça. Et donc à l'époque je développais pour DreamWorks un Moby Dick qui a été annulé parce que c'est une histoire de revanche. Donc c'était beaucoup trop,
anxiogène pour la période.
Exactement. Merci, c'est le mot anxiogène, absolument. Et donc je vais vous résumer parce que je deviens trop bavard. Donc, et puis par la suite, donc, on a travaillé sur beaucoup de films qui ne se sont pas faits. Et vous savez, quand vous travaillez 2 ans sur un film qui ne se fait pas, c'est très frustrant parce que vous perdez tous les droits, vous ne pouvez plus réutiliser votre travail. Et donc en rentrant en France avec mon frère, donc, c'est en fait Christophe Malavoy, l'acteur Christophe Malavoy, qui est toujours un Célinien, c'est un garçon très cultivé, très gentil, qui nous avait sollicité. Il avait un projet d'adaptation de Céline en film avec des parties animation dedans, les fantasmes de Céline qui sont ô combien intéressants. Et donc nous avions développé déjà un premier storyboard sur ces séquences-là, mais comme Christophe n'a pas réussi à monter le financement pour 2 raisons, d'abord le coût, le coût astronomique, parce qu'en France, il faut des millions pour faire un film d'animation, et nous n'avons pas cet argent-là. Quand je dis nous, c'est la France. Et donc, et deuxièmement, le personnage de Céline, ô combien ambigu, controversé, s'il en est. Donc, il avait même appelé des acteurs pour jouer le rôle de Céline, et tous ont refusé, et parmi des gens célèbres, ah non, je ne veux pas jouer le rôle d'un tel salopard. Enfin, c'était, vous voyez, on est quand même dans une époque, n'oubliez pas, de politiquement correct, et donc, du coup, le projet est devenu une bande dessinée. Une bande dessinée chez Futuropolis, qui a très très bien marché. Futuropolis nous a encouragés, et Paul et moi avons découvert ce nouveau média, et donc on a pris le virus, et en plus... le cinéma, il faut quand même, quand vous dirigez une équipe de plusieurs dizaines, voire centaines de personnes, il faut avoir... Et donc, là, maintenant, on a trouvé notre bonheur avec la bande dessinée. Voilà, résumé, excusez-moi d'avoir été long.
Non, mais c'est très bien, mais ce qui est rigolo, c'est que certains auraient pu être tentés de poser leur pinceau en partant en retraite. Vous, vous commencez avec votre frangin une nouvelle carrière.
Exactement, voilà, j'ai horreur de ce mot de retraite, mais tant pis, disons-le, oui, nous sommes à la retraite et on n'a jamais été aussi occupés que ça. De toute façon, sinon, je m'ennuierais mortellement. Et donc c'est parfait la BD. Et notamment, vous savez, il y a eu le Covid, donc on nous a obligés de rester chez... Quand on est artiste, il n'y a pas de problème, je peux rester chez moi du moment que j'ai mon papier et mes crayons, parce qu'on est très, dans les outils, on ne fait pas de 3D, on ne fait pas d'ordinateur, mon frère et moi. Et donc, ensuite, on a fait l'automne à Pékin, on a fait l'écume des jours chez Futuro, on a fait les contes drôlatiques chez Futuro. Et puis, en même temps, on faisait des grandes illustrations à la galerie Daniel Maguen, qui, entre-temps, étant devenu éditeur, nous avait dit, il faut faire des BD chez moi aussi. Et donc, on a décidé d'attaquer les grands classiques avec l'Enfer de Dante et aujourd'hui, le Don Quichotte.
Exactement, ouais. Parce que c'est un peu ça le point commun dans toutes les BD que vous avez réalisées, comme en ces dernières années. Ce sont toutes, si je ne dis pas de bêtises, des adaptations d'œuvres célèbres. Et ça m'a permis de frimer auprès de mon compagnon, Erwan, lorsque je lui ai dit « Est-ce que tu as déjà lu L'Enfer de Dante ?» Tu vois, L'Enfer de Dante et tout, ça m'a permis de frimer. Puis hop, il dit « Oui, mais c'est L'Enfer de Dante avec des images. » Et je vous remercie facile. Pour nous permettre de découvrir la culture classique quand même. Sinon, je crois que j'aurais jamais lu l'enfer.
C'est vrai qu'apparemment, la littérature, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Parce que vous évoquiez Céline, là on est avec Dante, on a Don Quichotte. J'ai cru entendre parler qu'il y avait des gargantuas qui se préparaient.
Enfin, Boris
qu'il y avait
Vian.
Du Boris Vian. La littérature, c'est le mot.
La maison Huchère.
C'est quelque chose qui vous tient à cœur, à vous et à votre frère.
Tout à fait, je suis content que vous souligniez cet aspect des choses parce que bon, nous sommes de formation très classique, très littéraire, nous adorons la littérature et puis c'est vrai que l'Enfer de Dante et Don Quichotte ont ceci en commun que les gens ont l'impression de connaître mais les gens n'ont jamais vraiment lu, d'ailleurs c'est assez rébarbatif aujourd'hui et que donc notre prétention nous a poussé à amener ça, à vulgariser ces œuvres-là et à leur donner, à les rajeunir, même si c'est une insulte auprès d'écrivains aussi célèbres que Cervantes et Dante, à dépoussiérer, à éliminer, pour ne garder que la substantifique moelle, comme disait notre ami Dali, et donc pour l'amener avec notre connaissance de la mise en scène, de la théâtralisation, donc de mettre en relief l'aspect spectaculaire de ses œuvres.
En tout cas, moi, petit Padawan, je vous remercie parce que j'ai été à Ravenne ces dernières vacances et Dante est enterré là-bas et j'ai pu frimer auprès de ma chérie en lui rappelant un petit peu qu'est-ce que c'était que le fameux Enfer de Dante. Merci à vous. Elle m'a regardé avec des yeux. Waouh,
ouais.
Il est intelligent, mon chéri.
Non, mais je suis fier de ça parce que c'était l'idée. Bah, tant mieux si en plus ça vous a rapproché. Alors, encore plus.
J'ai une question à vous poser parce que, comme le souligne Erwan, c'est une œuvre classique. Vous avez déjà animé des séances de dédicaces pour l'Enfer de Dante?
Oui, tout à fait. Le livre, ce livre est sorti au mois de janvier de cette année. Vous voyez, on sort déjà un Don Quichotte. C'est vous dire si on travaille.
Est-ce que vous êtes déjà tombé sur des grincheuses ou des grincheux qui vous ont dit « Mais vous avez totalement dénaturé l'œuvre, vous avez tué Dante ?»
Alors, mon cher Lionel, très bonne question et je peux y répondre avec fierté. Eh bien, non.
Bien.
Parce que justement, et je vous invite, et d'ailleurs, nous avons été prudents parce qu'en s'attaquant à ça, nous craignions exactement la réaction dont vous parlez auprès des exégètes, autres intellectuels, qui peut-être à juste raison auraient pu nous reprocher d'avoir trahi l'esprit de l'œuvre. Ce à quoi nous avons avons fait très attention. Et c'est pour ça que nous avons écrit un premier avertissement pour les deux livres, d'ailleurs, autant pour l'Enfer que pour le Don Quichotte, un avertissement en tant qu'auteur, en disant quelle a été notre démarche et que nous sollicitons l'indulgence des grands spécialistes s'ils devaient se sentir trahis. Et bien donc, nous avons eu une critique excellente sur l'Enfer qui soulignait non seulement la qualité sur la forme, sur le dessin, ça, mais aussi sur la qualité de l'adaptation. Parce que c'est vrai que quand vous adaptez des textes comme ça, noblesse oblige, il faut respecter l'esprit de l'œuvre.
Comment vous choisissez d'ailleurs les œuvres que vous voulez adapter? Parce que il y en a des milliers, hein, et des milliers.
Ah bah oui,
et des milliers,
bah c'est inépuisable. Et hélas, j'aimerais bien être immortel.
Est-ce que vous êtes donné une ligne directrice ou une grille de sélection?
Pas vraiment. Non, on n'a pas fait une liste comme ça. Non, nous laissons attirer par. Il y a une spontanéité. Il y a des œuvres auxquelles, en fait, le critère de dénominateur commun de sélection va plutôt vers les auteurs visionnaires. Hein, Donc, ceux qui ont un univers particulièrement, alors l'Enfer, Dante bien sûr, l'Enfer, alors ça fait partie de la Divine Comédie, l'Enfer, le Purgatoire et le Paradis, mais comme on préfère dessiner des monstres et des gouffres abyssaux plutôt que des petits papillons et des arcs-en-ciel, donc nous avons choisi l'Enfer.
Pas de licorne pour vous donc.
Voilà, et puis Don Quichotte, pareil, tout l'aspect visionnaire de cet homme qui voit une autre réalité que celle qu'il a devant les yeux. Et c'est ce qui nous a permis d'ailleurs sur la forme de passer dans un autre, de sortir la couleur au moment où, où on voit la vision subjective de Don Quichotte.
Plus fun, plus chaleureuse quand même que dans l'Enfer de Dante quand même. Parce
oui.
que l'Enfer de Dante, c'est une œuvre qui est lourde quand même, avec tous ces personnages monstrueux là, qui sont isolés dans les différents cercles, etc.
C'est
qui
terrible.
Semblent souffrir pour l'éternité. C'est lourd comme...
Mais oui, mais Lionel, c'est l'enfer et on ne pouvait pas faire à moins. Même à un moment donné, Paul avait dit, il y a des mutilés, là on va trop loin, on va revenir en âge. Non, c'est l'enfer, c'est ce qu'il y a de pire au monde. On ne peut pas concevoir de pire spectacle que l'enfer, puisque, comme le dit Dante, les fosses de Malbolge, c'est un épisode du livre, étaient un véritable enfer dans l'enfer. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà. Et d'ailleurs, c'est vrai que ce n'est pas pour les petits. Hein. Il ne faut pas ouvrir le livre pour les petites. Et donc, on ne pouvait pas faire à moins, parce que c'est en cela que il ne faut pas trahir. On ne va pas édulcorer, on ne va pas amollir tout ça. Par contre, Don Quichotte, on va plutôt aller dans la caricature, dans le drôlatique, dans le truculent, dans la truculence. Vous voyez, donc, parce que l'œuvre elle-même, il faut s'adapter, il faut adapter la forme au fond.
Y a qu'à voir qui s'est intéressé d'ailleurs au Don Quichotte. Terry Gilliam est aussi intéressé, c'est pas
beaucoup
par hasard.
Beaucoup de monde s'est intéressé
à film maudit d'ailleurs. Le film Gilliam, maudit, ouais. Qui verra jamais le jour.
Oui, oui. Mais certains disaient que même Cervantes était. Enfin, Don Quichotte de Cervantes était un projet maudit parce qu'il y a eu beaucoup de. Même Orson Welles avait essayé de faire un Don Quichotte. C'est un. Voilà. Et donc on a espéré, nous. Et puis on avait aussi chez Disney développé un Don Quichotte. On avait travaillé 2 ans et demi. Le film a été arrêté sur un simple coup de téléphone de Michael Eisner, qui était à l'époque le CEO de chez Disney, en disant « Qu'est-ce que vous faites en ce moment dans le département animation ?» Et mon boss lui avait dit bah, « Les frères Brizzi développent Don Quichotte. »« Ah non, il faut arrêter avec ça. C'est un vieil homme, je crois, qui voilà, il raconte. » Il dit oui, c'est non, les enfants ne peuvent pas s'identifier à un vieil homme et tout ça, donc vous annulez le projet. » Sans même regarder le boulot, quoi. On avait fait, il y avait 3 heures de storyboard monté, tout ça. Non.
Et donc en réalisant l'album, vous cassez la malédiction, ça se trouve.
Voilà. Alors nous, on a voulu aller. On s'est dit, on est en victime de la malédiction. Eh bien, cela ne sera pas.
Alors attention, Monsieur Brizzi, parce que le livre sort officiellement le 9 novembre. Nous ne sommes pas encore le 9 novembre.
Voilà.
Vivons,
ah non, Lionel, ne me portez pas la voix, s'il vous plaît.
Nous vivons des temps troublés.
Vous énervez en ce moment, il paraît. Il a le doigt sur le bouton.
Au contraire, je compte sur vous et je vous remercie de m'accueillir pour mettre le livre en avant.
Alors, youpi.
Rusty. shattered by the sun. I walk a road, horizons change, the tournament's begun. The purple piper plays his tune, the choir softly sing. Three lullabies in an ancient tongue for the court of the crimson. Shutters on the dreams. I wait outside the pilgrim's door with insufficient schemes. The black queen chants the funeral march, the cracked brass bells will ring to summon back the fire witch to the court of the crimson.
by, the wise men share a joke. I run to grasp divining signs to satisfy the hoax. The yellow jester does not play, but gently pulls the strings. Smiles as the puppets dance in the court of the crimson.
Oui, tous les alors, deux, parce que
on parle, vous parlez de votre frère, mais votre frère n'est pas avec nous parce que lui, il vit aux États-Unis, si j'ai bien compris.
Tout à fait.
Et vous, vous vivez en France. Alors moi, je croyais que c'était Uzès, mais vous avez dit non, pas tout à fait.
C'est plus près de Nîmes.
Voilà. Mais vous vivez vraiment chacun d'un part et d'autre de l'Atlantique. Donc comment vous travaillez en fait?
C'était pas évident parce que Paul et moi, on a toujours, on est assez fusionnels. Nous sommes frères jumeaux. Il faut peut-être le spécifier. On l'a dit peut-être plus tôt, je ne sais plus. Et donc on a toujours été, on a suivi la même trajectoire. On a eu la même éducation, bien entendu, mais les mêmes études, et le même travail, les mêmes réussites, les mêmes échecs. Jusqu'au jour, et nous avons vécu plus de 15 ans aux États-Unis à travailler pour les grands studios, Disney, DreamWorks, Warner Bros. Et puis après, nous sommes entrés en France pour différentes raisons. Et puis par la suite, mon frère et sa femme, donc, ont leurs enfants qui sont restés aux États-Unis. Ils ont des petits-enfants maintenant. Ils ont éprouvé le besoin de retourner là-bas. Donc, ils se sont réinstallés. On était avant à Los Angeles, maintenant, ils sont à Washington. Et moi, donc, j'ai préféré rester en France. J'ai adoré mon séjour, ma vie aux États-Unis. On est bien aux États-Unis, hein. Surtout quand on fait ce qu'on aime. Los Angeles, c'est la Mecque du cinéma. J'adore cette ville. C'est une ville particulière. Ça fait vraiment partie de très bons souvenirs. Maintenant, pour revenir à votre question, Erwan, c'est comment on travaille. Eh bien, donc, on a déjà une grande habitude de notre collaboration. On se connaît par cœur et tout ça. Quand on choisit notre histoire, c'est facile d'écrire un scénario dans deux villes différentes, dans deux endroits différents, ça c'est pas un problème. Le problème commence quand il faut l'exécution des planches, mais avant ça on fait donc tout le livre en rough, au brouillon, et après on se partage les séquences. Paul prend les séquences où les personnages vont être prépondérants, où il y aura des séquences de dialogue, de comédie, d'expression. Et moi, j'ai pris les séquences où le spectaculaire est plus important, les décors sont plus importants, en laissant la place dans mes décors pour qu'ils puissent y installer ces personnages ultérieurement. De la même manière, après, nous voyons, soit c'est moi qui vais chez lui, soit c'est lui qui... On se voit deux à trois fois par an pour rester trois semaines, un mois. Et là, vraiment, on complète les pages de l'autre en veillant à la plus grande homogénéité possible et la plus grande lisibilité possible.
Alors, c'est peut-être un petit peu indiscret, mais jamais de prise de tête, etc. C'est incroyable.
Jamais. Il peut y avoir des désaccords, mais ce sont des désaccords tout à fait normaux, hein, en matière de mise en scène. Je trouve qu'il faut un gros plan. Là, tu as fait un plan d'ensemble, là, tout ça. Encore une fois, c'est de la mise en scène, hein, la BD. Hein, donc, pour nous, c'est de la mise en scène. Hein, c'est toujours un œil cinématographique. Donc, on connaît bien ces codes-là. Et donc, on pense les manier avec un certain savoir-faire. Et donc, on a une... Vous savez, toute cette collaboration crée... on a une même vision des choses. Donc, on peut en effet avoir des divergences, mais on en discute tout à fait objectivement et on trouve la meilleure solution qui nous paraît objectivement la meilleure pour le bouquin.
Hein. Surtout que vous paraissez, c'est pas une critique, mais être tous les deux assez perfectionnistes. J'ai vu une petite vidéo parce que je suis le compte Instagram de Monsieur Olivier Souillet et des éditions Maghen. Oui. Et on vous voit devant les planches de l'enfer dedans, vous posez. Et on en. Je sais plus si c'est vous, si c'est Paul qu'on voit qui fait deux, trois petits traits. Je raconte à Erwan, je dis waouh, 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 ça m'a l'air. Vous êtes précis jusqu'au bout.
Ah oui, c'est ciselé. On fait un travail vraiment ciselé. D'abord, on part du global pour aller dans le détail. Mais surtout, ce qui est très important, mon cher Lionel, c'est. Ce sont deux choses en matière, et là encore on revient à des critères cinématographiques, c'est la composition générale, donc l'angle de prise de vue, comment je cadre mes personnages, comment je cadre cette situation, et la lumière qui est très... C'est pour ça la préférence nous est donnée au noir et blanc, c'est vraiment notre routine où on adore les films en noir et blanc, quand vous regardez les films de Bergman où la lumière est somptueuse, voyez. Donc c'est très important pour théâtraliser, dramatiser, mettre l'accent et pour la lisibilité des choses. Donc c'est très très important, la lumière est très importante, donc la qualité de contraste, la qualité des noirs, la qualité des gris, du blanc au noir absolu, ouais. Toute cette palette de gris nous permet de créer une image, un univers bien à nous.
Et ce qui est la particularité, oui, outre le fait que vous soyez donc deux frères jumeaux, que vous avez commencé tardivement dans le 9e art, puisque vous avez pratiqué avant l'animation, c'est ce dessin. Alors, je ne sais pas comment vous dites, crayon de bois, crayon à papier, crayon de plomb.
Aucun des trois. C'est un crayon au carbone, bien sûr, mais dans la composition duquel entre une part de cire. CIRE, donc qui fait que donc on obtient ce soyeux et puis après avec un Kleenex très doux, si on va un peu caresser, ça permet de faire des sfumati, enfin la technique de Léonard de Vinci, on va dire, excusez du peu, donc de manière à créer des flous, des fonds, des
comme des lavis derrière.
Non, c'est pas des lavis, ça permet, si vous voulez, hein, quand vous cirez vos chaussures avec du noir, oui, après vous donnez un coup de brosse et puis le noir vient et puis ça devient. Et donc ça donne ce côté satiné, semi-brillant, vous voyez, tout ça, aux planches originales. Donc ça.
J'adore ce côté artisanal presque.
Oui, on est des. Alors bon, j'ai travaillé un peu à l'ordinateur en tant que réalisateur et tout ça, mais j'ai jamais vraiment maîtrisé l'outil ordinateur. Donc, et puis on va beaucoup plus vite, nous, avec notre crayon et notre papier, que même à tapoter sur un clavier. Mais ça n'a rien à voir. Hein. Il y a une sensualité dans le dessin. Tous les dessinateurs vous le diront.
Et surtout, on garde une trace, parce que le problème des dessins sur ordinateur, il n'y a plus de planche, il n'y a plus rien.
Ah bah oui, on est dans le virtuel, ouais, absolument. Bah ouais. D'autant plus que, excusez-moi de mentionner l'aspect commercial, mon galeriste, il ne serait pas content.
Hein. Voilà. Magal, je voulais venir à ça, parce que vous avez deux éditeurs favoris. J'ai fait le tour. La chute de la maison Huchère, c'est chez Futuropolis. Le double assassinat de la rue Morgue, c'est chez Futuro. L'enfer de Dante, Maghen, on l'a dit. Le week-end, donc le 9 novembre, Don Quichotte chez Maghen. Pourquoi ces deux éditeurs-là, justement ?
Bah écoutez, d'abord, j'y suis très bien avec tous les deux. Nous y sommes très bien tous les deux avec nos deux éditeurs. On a les meilleures des relations de confiance absolue. Le premier éditeur, c'est Futuropolis, puisque notre première BD, c'était La cavale du docteur des touches sur la vie de Céline, donc qui nous a donné notre chance, nous jeunes auteurs. de 65 ans et donc pour faire la cavale du docteur des touches et par la suite donc nous sommes restés parce que moi quand je suis bien avec nous sommes des fidèles jusqu'au jour où on est humain. Jusqu'au jour où vous vous sentez trahi ou vous perdez la confiance, là, on s'en va, quoi. Donc, Futuropolis nous a toujours été fidèles, on leur a toujours été fidèles. Et Daniel Maghen, c'était notre galeriste en tant qu'artiste qui exposait nos œuvres illustrées, qui, en devenant éditeur, nous a demandé de faire aussi de la BD chez lui. Donc, voilà le choix de nos deux éditeurs. Voilà.
D'autant que ces deux maisons, on avait déjà eu ces échos-là avec d'autres autrices ou auteurs, que ce soit Futuro ou Daniel Maghen, ils permettent aux autrices et aux auteurs d'avoir des formats différents de la BD classique franco-belge, des formats plus grands, une pagination un peu plus libre. C'est ça aussi peut-être qui est intéressant, c'est chez les éditeurs, là.
Oui, absolument. Les deux éditeurs sont ouverts. D'ailleurs, c'est un petit peu général en France. On a la chance en France d'avoir une quantité d'éditeurs. Et puis, il y a en France un grand esprit d'ouverture, culturellement parlant. On voit de tout. Vous savez, je crois qu'il y a plus de 4000 titres, si je ne me trompe pas.
Ouais,
et là, je ne parle que de, je parle même pas des mangas, je parle de BD. On ne peut même plus dire traditionnel, puisque maintenant, tout a changé. Un auteur qui a quelqu'un qui a du talent, ou peut-être qu'il y en a moins, mais qui trouve une préférence même chez un public plus comment dire, confidentiel, on va dire, tout est éditable, quoi. Presque trop, j'aurais tendance à dire. Et donc, on peut trouver chaussures à son pied facilement en France.
Ah. Et donc, chez Daniel Baguen, ce qu'il y a de bien en plus, c'est que nous, pour les lecteurs et lectrices, on va pouvoir, en plus de ça, si on va chez Daniel Baguen, il y a des expositions à chaque fois, il y a des sorties, pour chaque ouvrage qui sort, il y a une exposition des planches.
Absolument, parce que maintenant, il y a un nouveau marché qui correspond. Vous savez, il y a le marché de l'art, qui est sont souvent des prix, comme vous le savez, prohibitifs, on va dire, donc seulement qui s'adresse aux plus riches. Grâce à ce deuxième marché, qui est le marché de l'illustration et de la bande dessinée. Alors, quoique maintenant les chiffres montent, hein, quand vous voyez un original du Derzo ou d'Hergé qui dépasse les 100 000 euros, vous voyez, donc on commence. Mais donc, tous les gens qui aiment le dessin, qui aiment le beau dessin, il y a des collectionneurs de livres, mais il y a aussi des collectionneurs d'originaux qui trouvent chez Maguen, notamment qui est la meilleure la plus grande galerie en matière d'originaux de bande dessinée, des originaux sur du bon papier en dur.
Graphiquement, moi, je trouve que vous me faites beaucoup penser à des dessinateurs italiens, à Battaglia, à Topi. Je vous vois vraiment dans cette veine-là. Graphiquement, vous avez des références.
Mais écoutez, je ne sais pas. Peut-être c'est notre sang italien, parce que nous sommes d'origine italienne. Nos parents étaient italiens. J'ai deux sœurs, et puis avec mon frère,
Brizzi,
nous sommes...
on aurait dû y penser. Brizzi.
Je peux me permettre de vous corriger, c'est Brizzi.
Brizzi.
Faut faire roulez-moi ce R. Oula. Et faites-moi sauter ces deux Z là.
Rangez votre pistolet.
C'est vrai que, comment dirais-je, j'avais pas trop fait le lien, mais ça nous fait penser à des gens comme Monsieur Battaglia, donc on adorait.
Qui faisait aussi des adaptations.
Oui. Qui faisait des tas d'adaptations aussi chez Mosquito, chez un autre éditeur.
Ah oui, je vois, vous connaissez bien, c'est bien. Oui, oui, certainement. Il y a
livres aussi chez
Mosquito. Il y a notre italianité qui parle. Nous sommes des grands amoureux de l'Italie. Moi, je trouve que, entre la France et l'Italie, on est gâtés. On est dans des pays magnifiques où tout n'est partout. Ce ne sont que des trésors, des témoignages artistiques extraordinaires. En Italie, hein. Et je ne parle pas de la gastronomie, que de gastronomie. Et donc, voilà, donc oui, c'est certainement, c'est vrai que nous avons une culture de la peinture et sur le dessin assez riche et que nous avons des influences, ça, mais on vit avec. Notre maître absolu, notre grand maîtresse, c'est Gustave Doré, bien sûr, qu'on retrouve notamment dans l'Enfer. Et lui, il a tout fait, Gustave Doré, il a tout illustré.
Oui, très productif, hein, c'est assez incroyable.
Oui, oui. Mais on aime bien aussi les grands illustrateurs américains, malgré tout, comme Wyeth, Howard Pyle, Leyen Decker, Norman Rockwell aussi. Vous voyez, il y a une grande tradition. Il n'y a pas que les Marvel hein, chez Disney.
Chez les Américains.
Oui, Disney et l'Amérique, pour moi, c'est la même chose. Et c'est, vrai. c'est vrai. Et donc, j'ai fait un lapsus, j'espère, acceptable. Mais c'est vrai que le monde de l'illustration est très, très riche. Très, très riche.
J'ai envie de vous poser une question. Vous nous parliez de techniques dont on peut bénéficier à travers la lecture de vos ouvrages. Est-ce qu'il vous a jamais venu l'idée de créer, de transmettre aussi, quand vous parliez de techniques avec certains crayons, vous n'avez jamais eu envie de créer une école ou de transmettre
Mais on aime bien, moi j'aime bien m'adresser aux jeunes et je fais volontiers des conférences. J'avais été aussi approché par une école d'art à Montpellier où pendant une semaine j'ai fait un séminaire pour apprendre aux jeunes, enfin, à savoir qu'est-ce que c'est qu'une image. Et donc, moi j'aime bien faire ça, j'aime bien m'adresser aux jeunes. Mais c'est vrai que nous sommes tellement occupés par notre activité que c'est quelque chose qu'on pourrait envisager, mais tellement occupés par notre
ouvrages
activité.
En un an, monsieur Brizzi.
Quatre livres.
Vous ne craignez pas un contrôle antidopage ?
Non, non, vous pouvez me tester. je suis clean, comme on dit. Voilà. Non, non, mais vous savez.
Angeles et tout, nous, se prennent, le monde des médias, le cinéma.
Sauf que, mon cher Juan, Los Angeles, j'ai l'air d'idéaliser, mais il faut bosser en Amérique. Hein.
Alors, ma femme me dit, mais ils avaient peut-être commencé avant, parce que j'en parle à ma femme, j'écrive une interview, je lui dis, 4 bouquins en un an, et en plus, ils sont en retraite, c'est quoi cette histoire-là? Alors, elle me dit, peut-être qu'ils avaient déjà préparé des tas de choses et qu'ils sont arrivés.
Non, pas du tout.
Bouquins en 2023.
Bah, c'est vrai qu'on est, disons, performant, c'est-à-dire qu'on va, on travaille vite.
Vous devez travailler tous les jours aussi, j'imagine.
Ah oui, je travaille tous les jours. Mais pas forcément 8 ou 10 heures par jour. Des fois, je travaille que 3, 4 heures, c'est minimum. Mais des fois, oui, je m'arrête là, vous voyez. Mais des fois, c'est vrai, quand je suis parti, je peux travailler 10 heures dans la journée et tout ça. Vous savez, c'est une question de... Comme j'ai pas de pression de nos éditeurs, on livre toujours en avance et tout ça. Donc, voilà, donc c'est cool, quoi. Voilà, on est bien. Et l'important, je me suis installé dans le sud de la France parce que je m'y sens bien maintenant. À Paris, j'avais pas assez d'espace, j'avais pas assez de lumière, j'avais pas. Puis je trouvais la ville devenue un peu trop bruyante. Là, j'ai trouvé. Je me suis installé dans le sud et j'y suis très bien.
Une question un peu qui sert de fil rouge pour nous dans cette session. On aime bien se faire expliquer la couverture. Comment vous avez choisi l'illustration de couverture? On va peut-être prendre celle de Don Quichotte puisque c'est le touchant.
Pour l'enfer comme pour le Don Quichotte, il fallait choisir une couverture d'abord la plus spectaculaire, la plus attirante possible, hein, parce que vous savez que les gens qui achètent une BD, avant de feuilleter le livre, il faut que la couverture les exhorte, les pousse à vouloir feuilleter le livre. Donc ce critère-là. Et deuxième critère, c'est de faire quelque chose qui soit tout à fait, qui soit une synthèse de ce que vous avez à l'intérieur. Don Quichotte, comment ne pas choisir l'épisode des moulins. Et voyez, mais plutôt que de faire un gars à cheval qui va se taper la tête dans un moulin, c'est de montrer là la vision sublimée et la plus spectaculaire possible avec un choix un petit peu en silhouette de Don Quichotte pour garder le mystère sur sa tête vraiment à l'intérieur et voir en contre-plongée ce monde. Un moulin monstrueux, un géant monstrueux, mais fait de pierre et de bois qui garde le matériau du moulin. Pour l'enfer, c'est une couverture presque érotique, on peut le dire, hein, j'ai pas peur des mots, qui évoque...
Moi, les poètes plutôt, hein, je dois vous avouer que cet enchevêtrement de corps là, je voyais pas du tout. Hein,
c'est la luxure, c'est l'enchevêtrement de corps de gens donc, qui sont
Vous êtes plus libertin que moi, mon bon Roger.
Regardez mieux et tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a en même temps, il fallait pas que ça soit un coup de poing dans la figure, mais que ça soit beaucoup plus subtil et tout ça. Et là encore, vous avez vu un choix de lumière très dramatisé, encore une fois, pour donner la dimension infernale de l'ensemble.
C'est vrai que vous nous avez parlé de Gustave Doré tout à l'heure, et là, on trouve effectivement.
Alors chez Gustave Doré, il y a aussi cet épisode, mais beaucoup plus pudique, parce que c'était quelqu'un de très pudique et il était très très croyant, non pas que ça soit une insulte à la foi, mais c'est l'enfer encore une fois. Donc l'enfer, il fallait être à la hauteur.
Et alors je me posais une dernière question, c'est quand vous avez fini un ouvrage et que par exemple vous êtes vraiment les jeunes disent maintenant pris votre pied à réaliser cet ouvrage avec votre frère, est-ce qu'il ne vous vient pas à l'idée de dire « Ah, est-ce qu'on n'en referait pas une animation à partir de nos dessins ?» Non ?
Bah écoutez...
l'animation.
Oh oui, toujours. Il y a toujours, vous savez, quand vous avez le virus de l'animation et tout ça, à un moment donné, oui, il peut y avoir... On va appeler ça un brin de nostalgie, voilà, mais... Bon, on est tout à fait conscient aussi qu'on est dans une réalité économique très très difficile. Le problème, c'est que... Vous savez, l'animation a été une source de plaisir, de succès, notamment quand on a fait le Fantasia 2000 pour Roy Disney, le succès était phénoménal. Donc, mais il y a aussi, il faut le dire, des déceptions, des projets avortés auxquels on tenait énormément. Notamment, il y a eu un projet de rock opéra avec Luc Besson et Mick Jagger sur la musique des Stones. On avait travaillé un an qui a été annulé à cause d'une dispute entre les deux titans que sont Besson pour la France et Mick Jagger. Dernière légende du rock vivante qui sont arrivés à un désaccord complexe. Donc il y a des frustrations et des déceptions et donc c'est difficile à vivre, vous savez, hein, quand vous mettez tout dedans. Donc l'animation était à la fois c'est notre plaisir et notre douleur.
Alors, là, vous êtes très classique, etc. Mais il y a un truc qui m'a fait rire. Lorsque vous avez reçu le César là, pour Fracture, vous dites, il y a une petite phrase, vous dites, c'est un film de drogué sans drogue.
Oui, c'est pas moi qui ai écrit ça. Hein.
C'est Paul. Ah, c'est Paul ou vous?
Ah non, non, on n'a pas. Non. Ah, c'est possible, écoutez.
Si, si, je l'ai, on le voit,
ah,
sur,
bon,
on le voit sur Internet.
Oui.
On fait des recherches.
On a des preuves.
On, ah, vous... on fait des recherches.
Oui, bah justement, sans drogue. Donc,
c'était pas un des trucs dont on ne devait pas parler.
Ah, c'est voilà. Non, mais c'est tellement visionnaire et c'est vrai que c'est un peu barré hein, comme
ouais,
truc.
Ouais, ouais.
Mais vous savez,
on, peut en voir des extraits
on avait
en plus
quel
de
âge
Fracture.
On avait? On avait 27 ans. Hein, donc, on était dans. Vous savez, c'était, on était dans les années 70 et tout ça. Mais c'est vrai que c'est d'ailleurs c'est un projet très écologique. Hein, il faut le regarder. Mais c'est vrai que c'est des films. Nos courts-métrages sont des films très. Très fantastique, voire angoissant. Hein,
ouais. Mais je crois qu'on peut le rechoper sur YouTube, si je dis pas de bêtises.
Oui, je pense, oui, ouais, ça se trouve. Et ça a marqué beaucoup de jeunes auteurs, ce dessin animé.
Parce qu'en France, on a de nombreuses écoles d'animation pour former de nouvelles animatrices, animateurs. On a la chance, avec Erwan à Rennes, de couvrir un festival international de films d'animation, de courts-métrages d'animation. Vous suivez encore un petit peu ce qui se passe dans l'animation? Vous avez complètement mis ça de côté?
Non, oui, je suis, mais un petit peu de loin quand même. Mais c'est vrai que, bon, je connais beaucoup de monde, mais c'est vrai que ça a évolué énormément. Par exemple, les jeux vidéo, moi, j'y connais rien. Ça m'intéresse pas trop.
Ça a permis de faire diminuer les coûts. C'est ce que nous disent les jeunes autrices ou auteurs, ça a permis de diminuer les coûts. Les processeurs informatiques, etc.
Je vais peut-être un peu contester cette assertion. Hein. Vous savez, on a cru à l'époque, je dis à l'époque, parce que moi, j'ai vécu la révolution... outils traditionnels, ordinateur, on a cru qu'on allait faire les films plus vite et moins cher. C'est pas vrai du tout, parce que les logiciels sont très 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 complexes. Les programmateurs, il faut un temps fou pour programmer. Vous savez, quand vous devez animer la mer par ordinateur, avant on savait pas le faire, maintenant on peut le faire. Ou les chevelures de femmes avec tous ces cheveux là, vous voyez, il y a que l'ordinateur. Mais l'ordinateur, longtemps, ne pouvait pas faire des choses comme ça. Notamment quand on a fait l'oiseau de feu, on a fait un peu d'ordinateur, on n'y arrivait pas, tout ça. C'est assez mixte entre ordinateur et traditionnel. Mais les coûts n'ont pas baissé pour autant. Je pense maintenant.
Est-ce qu'on vous demande la question projet? Vous avez combien d'albums pour 2024? 5, 6?
Ben écoutez, ben voilà, j'ai quand même peut-être un peu. Voilà, vous donner faire quelque. On va faire un petit scoop là pour finir. Donc là, l'actualité, c'est Don Quichotte et seulement Don Quichotte. Par contre, dans le mois qui suit, Futuropolis sort. On va sortir un livre illustré. Avec les nouvelles d'Edgar Poe, nouvelles extraordinaires d'Edgar Poe, sous le titre « La chute de la maison Huchère et autres nouvelles extraordinaires », livre illustré. Hein. L'année prochaine, ça c'est pour cette année, l'année prochaine, on sort chez Futuropolis « Le fantôme de l'opéra » en bande dessinée, et chez Daniel Maguen, donc l'année qui suit, peut-être à la fin de l'année prochaine, si on travaille bien, mais plutôt début de 2026, le troisième opus de cette collection, donc sur les grands classiques avec Shakespeare, Macbeth.
Oh, wow.
2026.
Il se projette très loin.
Voilà.
On va encore
et encore d'autres projets.
On va pas pouvoir dire qu'on a lu Macbeth. C'est surfait.
Ouais. Je terminerai avec la citation qui est à la fin de Don Quichotte que j'aime beaucoup. Son tort, voyez-vous, fut d'avoir trop aimé les livres. C'est une belle phrase.
Oui, bah, je suis content parce que c'est une phrase que nous avons, qui est de nous, de mon frère et de moi. Voyez, parce que d'ailleurs, c'est ce que c'est. En fait, le livre est un flashback du curé de la paroisse qui, dans le livre de Cervantes, essaie toujours de ramener Don Quichotte à la réalité. Il fait toujours la morale et tout ça. Et donc, c'est lui qui raconte l'histoire. Et puis, quand au début du livre, des gens se moquent sur la tombe de Don Quichotte, que c'était un vrai dingue, pour parler vulgairement, le curé dit. Non, non, vous vous trompez. Son seul tort, voyez-vous, fut d'avoir trop aimé les livres. Voilà. Et donc, c'est ça. Voilà. Et donc, ça résume bien. Merci de l'avoir cité.
C'est une belle phrase. Non, mais c'est une très
belle phrase. Vrai. Voilà. On vous remercie.
Merci à vous.
On vous remercie beaucoup d'avoir passé un petit peu de temps avec nous. On a appris plein, plein de choses. Et comment on va pouvoir frimer en disant qu'on a lu aussi le Don Quichotte de la Manche, désormais.
C'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli. C'était très sympathique.
Au revoir.
Au revoir.
C'est marrant.
You know, my mama told me, papa told me too. You don't know what she's up to. Well, it's a dead cat. A dead
red cap. Come home at night talking out of your head. Have to take a bath before you go to bed. Well, it's a dead cat. Dead cat. Well, all through the week, you're as quiet as a mouse. Saturday night, you go from house to house. I ain't lying, you're the cheating kind. There's a dead cat on the line. Another's man, well, it's a dead cat. Dead cat. Down on the playground, up on the street, high on the roofs where the hippies meet. Well, it's a dead cat. Dead cat. Well, all through the week, you're as quiet as a mouse. Saturday night, you go from house to house. I ain't lying, you're the cheating kind. And there's a dead cat on the line.
C'était la minute, toi aussi t'as eu une banane à un moment dans ta vie.
Ouais, même les, je dirais presque 3 minutes 30, The Hillbilly Moon, Hillbilly Moon Explosion, Explosion,
Explosion.
Explosion, voilà.
Dead Cat Boogie. Ouais, c'était bien.
C'est excellent, tout en retenue, le contretemps de la batterie, waouh, waouh, waouh.
Et avant l'interview, vous aviez eu Idols avec Dancer. Il était charmant ce monsieur Rizzi.
Ouais.
Puis il avait l'air de bien s'être amusé avec nous, donc c'était plutôt une bonne interview.
Ouais, il a eu la gentillesse, vous avez vu la pointure, comment bosser,
ouais, il m'a fait
bosser
un dent.
Pour Mickey, etc.
Il m'a fait un dent au milieu des roches.
Ouais, et ben moi, il m'a dessiné un géant qui attaque, comment dirais-je...
Don Quichotte.
Don Quichotte de la Manche.
Paris aux éditions, Daniel Magan. Vous pouvez toujours nous envoyer des chroniques, n'oubliez pas. À la semaine prochaine, bonne lecture, tant qu'on a le droit.
Yep.